Pavillon Nomade. Le direct.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Pavillon Nomade. Aujourd'hui, le premier jour du printemps avec un beau soleil, avec des fleurs, avec plein de gens qui sont autour de la table. Et on salue Nicole, on salue Laurane, on salue Olivier, Elodie et le retour d'Eliane. Sans oublier notre super technicien Pascal. Bienvenue à toutes et tous. Alors aujourd'hui, nous avons une invitée d'honneur. Bonjour Laurane.
Bonjour, bonjour.
Voilà, donc vous êtes en résidence parmi nous. Depuis combien de temps vous êtes en résidence?
Ça fait un mois et demi. Il me reste environ 2 semaines, donc oui, un mois et demi. C'est une résidence de 2 mois.
D'accord. Et pouvez-vous nous parler de vos ateliers? Parce que vous animez un atelier plante, j'ai entendu, donc ça m'interpelle.
Alors l'atelier plante, alors c'est vrai que je l'ai nommé de manière très large pour englober les envies en fait des patients, des gens qui arrivent à l'atelier. Et donc ce qu'on a finalement fait, toujours en questionnant, en fait, les personnes qui arrivent à la buvette à 15h, ce lundi aussi, si jamais. On commence par 5, 10, 15 minutes de thé. Une fois, ça a duré 45 minutes, parce qu'on a eu un très bon partage de quelqu'un qui nous a expliqué sa pratique autour des plantes. Et ensuite, on descend à l'atelier où on fait une balade. On peut faire des cueillettes de fleurs sauvages, comme on a fait un jour avec les primes verts, qui sont actuellement encore en fleurs, qu'on peut mettre dans nos salades. On peut faire nos propres salades avec les feuilles même. Donc voilà, c'est la découverte des plantes et des fleurs sauvages, comestibles, voire médicinales.
Et j'ai entendu que vous aviez une fleur, en fait, de prédilection. C'est...
Alors, ma fleur de prédilection, c'est le pissenlit.
Le pissenlit. Qui peut être justement consommé, qui peut être en salade. Hein. Donc, on connaît la dent de lion, par exemple. Mm-hmm. Et il y a d'autres vertus?
Alors, du coup, on a tendance à connaître la dent de lion pour la salade qu'on va encore acheter sur le marché actuellement. Voilà. À un prix presque d'or, j'ai envie de dire. Moi, quand je vois le prix, ça m'hallucine. Mm-hmm. On en a dans nos jardins. Ils sont juste sous nos pieds. On peut les prendre, on peut les cueillir. Les tremper dans un peu de vinaigre pour être sûr d'enlever toutes les bactéries et les manger. Mmh. Et on en paye le prix d'or. Mmh. Et à partir de là, pour moi, le pissenlit, c'est une interstice pour un partage, une discussion, autant de vie, de mémoire, de sens. Parce que je pense qu'on a tous joué avec le pissenlit.
Mmh. Oui. Juste une question. Juste une petite question.
Oui, bien sûr.
Le pissenlit. En fait, c'est la fleur, le jaune du pissenlit ou...
C'est l'inflorescence qu'on a tendance à appeler pissenlit, mais en fait, c'est toute la plante, comme toute la plante est le dent de lion. Mais on a tendance à distinguer un petit peu en français entre la fleur et la feuille, alors qu'à chaque fois, en fait, on nomme les deux. D'accord. Et c'est une inflorescence. C'est milliers de petites fleurs. Ah ouais, enfin, des centaines.
Magnifique. Merci.
Et j'aimerais parler un peu de votre parcours académique qui est atypique. Donc, volontiers, parlez-nous-en.
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Alors,
du coup,
vous avez fait une formation en sciences et anthropologie, donc, hein?
Alors, j'ai fait d'abord une première formation dans les sciences, en physique et application des maths, en fait.
D'accord.
Donc, c'est la partie gymnase, lycée, spécification pour continuer à l'EPFL, aller, on s'ouvre toutes les portes possibles. À la fin de ces études, je dois dire que j'en avais plus que ma coupole de la physique, des mathématiques. Et j'ai toujours apprécié créer quelque chose et pouvoir mettre en forme, enfin, de la pensée à quelque chose de concret qui se réalise, qui se visite. Je me suis dit, tiens, c'est l'architecture, ça va lier le tout, c'est parfait. Mmh. Autant dire que ça a détruit mon corps. Qui avait peut-être déjà de la peine à bien mettre de l'énergie parce que les études en architecture demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mmh. Et du coup, je ne l'ai pas utilisé pour me faire à manger, je ne l'ai pas utilisé pour bien boire, je ne l'ai pas utilisé pour être hors de mon ordinateur et créer des plans ou des maquettes. Et ça m'a détruit le corps. Mmh. Donc de là, j'ai fait un burn-out. Et qu'on pourrait même nommer de dépression. Et c'est là que j'ai dû retourner, en fait, à mes premières envies. Mes envies d'enfance, quand on se baladait avec les parents. Et je suis retournée à Neuchâtel pour l'école, justement, en anthropologie et cette fois-ci en histoire de l'art. Et ce retour à l'anthropologie, à la culture, au monde indigène, on va dire, m'a rappelé ce désir d'enfance de connaître ce qui se trouve sous nos pieds. Mais c'est quoi cette plante? C'est quoi ce truc? Se rappeler que tu mangeais la fleur que tu découvres aujourd'hui, que c'est la fleur de trèfle, la petite canne à sucre que tu prenais sur tes balades. Et un jour, j'ai entendu juste une remarque dans le train, très anodine. « Ah, hier, j'ai fait du miel de pissenlit », quelqu'un qui le disait au téléphone. Et le lendemain, je me suis retrouvée dans un champ rempli de pissenlits. Je les ai cueillis. Et moi et mon corps, qui avait encore de la peine à se reprendre, qui commençait à montrer sur la peau de l'eczéma, d'avoir toute cette poudre de pissenlit sur les mains, en fait, ça m'a soignée. Ça m'a apaisé ces démangeaisons. À partir de là, j'ai fait du miel. J'ai découvert que ça m'aidait à ne plus prendre d'ibuprofène quand j'avais des douleurs, des règles. Donc, en fait, c'est toute une poursuite qui m'a amené à me sentir mieux, à me lier plus à d'autres plantes et à arriver à l'école d'art. À faire ce pas, en fait, se dire, mais en fait, tu lâches la sécurité, stabilité d'un emploi où tu sais que tu vas être payé. Tu vas à l'école d'art. Et donc, le pissenlit, voilà, ça a été ma porte d'entrée. Quoi.
Je m'excuse par rapport au pissenlit. Je reviens sur le pissenlit. La tige, quand je me rappelle, enfant, on faisait... Il y a un liquide un peu blanc dedans, là. Mm-hmm. Mais ça, on peut consommer.
Alors, c'est aussi consommable. Là, par contre, il faut faire attention, parce qu'on a tous des corps et des physionomies différentes.
Oui.
Donc, mettre d'abord la partie laiteuse, qui est du latex, vraiment sur la main. Attendre 15-30 minutes, vérifier qu'il n'y ait pas de rougeur ou de démangeaison qui arrive. Parce que ça, si c'est sur la peau, ce n'est pas trop grave. Mais si ça t'arrive dans la gorge,
c'est plus ennuyeux.
Ça peut devenir très problématique. Si ça enfle dans ta gorge, tu peux arrêter de respirer.
Absolument, oui.
Donc,
il faut quand même être prudent, hein, je vois, avec ces plantes.
Toujours. C'est-à-dire que moi, je peux vous dire, le pissenlit, il a telle ou telle vertu. Il m'a aidé pour telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que ça va aider la prochaine personne de la même manière.
Et j'aimerais que vous nous parliez de votre parcours justement académique dans l'art, en fait. Quelle méthodologie vous utilisez? Quel style d'art vous pratiquez?
Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours de la peine à mettre en mots, disons. Actuellement, je suis vraiment dans une méthodologie de l'être. Donc, c'est-à-dire être dans un processus constant de recherche-création, enfin recherche-oubli-création. La partie d'oubli se dit de, en fait, ne pas être toujours dans ce qui est du savoir qui t'a été transmis, que tu as lu, que, ok, ça se fait comme ça. Tu oublies un petit temps et tu sais juste le processus de création et tu te remets dedans intuitivement. Comment est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va faire? Et donc, du coup, il y a beaucoup d'essais, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, mais aussi de réussites et des fois des réussites surprenantes parce qu'on se dit, tiens, c'est pas supposé tenir dans la longueur, mais ça a tenu. Pourquoi? Et tu sais plus forcément pourquoi. Donc, ça enlève un peu le côté très scientifique de tu dois tout noter, tu sais où te retrouver. Tu vas faire deux fois la même chose, mais ça va donner deux résultats différents et ça, c'est intéressant.
Eliane?
Comment voyez-vous l'évolution de votre travail dans les années à venir? Avez-vous des projets ou des collaborations, préparations?
Alors là, je suis en train de mettre justement de... Comment dire? J'ai fait beaucoup du coup, de créations diverses et variées, comme un arbre qui part du tronc et qui va dans plein de branches. Et là, je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai fait dans ces branchages, donc de récolter un petit peu chaque branchement pour pouvoir les présenter les proposer dans des résidences, des espaces. Et j'aimerais me tourner par contre dans faire des workshops aussi, des ateliers qui présentent ces processus, qui mettent l'être au centre de la préoccupation esthétique, en fait, de la tâche, de se laisser faire des tâches parce que souvent on nous dit fais pas de tâches.
Votre travail, en fait, semble être à la croisée de l'art et de l'écologie aussi. Hein, donc, ça a une partie importante dans votre vie, l'écologie.
Alors, ça a une partie importante et en même temps, il y a des choses dont on ne peut pas se détacher dans la société. Donc, je ne vais pas non plus aller à l'extrême. Mais j'essaye, en fait, d'être toujours dans un recyclage ou réemploi constant de ce qui m'est environnant. Donc, je ne peux pas aller toucher tout le monde. Mais ce que j'ai beaucoup fait ici, ben, c'est par exemple, tu cuisines quelque chose, donc tu fais une soupe d'oignon rouge, tu as beaucoup de pelures d'oignon rouge. Ah tiens, je vais faire une teinture d'oignon rouge, tu teins. Ah ben tiens, je vais récolter les pigments derrière. Donc tu en fais une encre aquarelle. Ah ben tiens, qu'est-ce que ça va donner si je la mets sur le papier? Et donc du coup, de l'acte tout simple de manger, tu finis par créer quelque chose derrière. Et là, je suis vraiment rentrée dans un processus qui me fatigue, qui est constant, qui est de toujours récupérer, récupérer, faire quelque chose derrière. Et au bout d'un moment, pourquoi en fait?
En fait, toutes ces découvertes que vous avez faites, on peut le quantifier en temps?
Comment est-ce que vous...
Alors, ce que je veux dire par rapport à toutes les plantes là, que vous parliez tout à l'heure, vous avez découvert, vous avez essayé. Donc, c'est sur combien de temps ça? 4, 5 ans, 10 ans?
Alors, ça fait plus de 6 ans que je suis vraiment à fond sur le pissenlit. Après, j'ai toujours eu une... Enfin, à part en architecture, très honnêtement, j'ai toujours eu une approche et une nourriture très proche des plantes et proche au jardin. Mais pas du sauvage. Et en fait, moi, je suis plus sauvage, tout simplement, que cultivatrice. Et cette approche sauvage, voilà, ça fait 6 à 7 ans. Que je suis vraiment dedans. Et commencer par le pissenlit dans les dorés culinaires, mais que je continue chaque année d'ajouter des choses. Il y a 4 ans, j'ai fait du vin. Ensuite, j'ai commencé la lactofermentation. Puis maintenant, je suis dans la fabrication de soda en fermentation naturelle, voire des bucks de ginger beer.
Vous devez bien vous entendre avec Alexandre, hein?
Oui et non. En disant qu'on a la même philosophie de vie, on est des alchimistes, mais lui, il est cultivateur jardinier. Voilà. Et moi, je suis cueilleuse sauvage. Donc, on s'entend et on s'entend... Ça dépend pourquoi.
Et comment le public, en fait, vu que vous avez travaillé avec des personnes, il perçoit votre travail?
Comment est-ce qu'il le perçoit? En fait, jusqu'à présent, ils l'ont vécu, mon travail. Ils sont rentrés à l'intérieur. C'était chaque fois que je l'ai vraiment partagé, ça a été des expériences immersives, sensorielles. Et du coup, dans ce côté sensoriel et charnel, c'est de mettre la personne à l'intérieur du travail. Donc même là, dans les ateliers plantes, ben, on arrive dans un espace qui invite les gens, enfin qui pour moi est chaleureux. Les gens pourront peut-être dire si ça a été le cas ou pas. J'ai le sentiment que ça l'a été, en tout cas les retours que j'ai eus. Et du coup, de présenter autant quelque chose, soit de l'odorat, soit de l'ouïe, enfin qui va au-delà du juste visuel.
Il y a Olivier qui aimerait réagir. Mais...
Alors, Lorraine, que je voudrais appeler Florane. J'ai effectivement côtoyé tes ateliers. Je t'ai trouvée très souriante, très détendu, libre. Et moi, je ne voudrais pas parler de technique, mais je voudrais savoir qu'est-ce qui te fait vibrer.
Vibrer, j'adore ce mot. Merci. mais ça reste une question hyper compliquée. En fait, c'est la rencontre. C'est le côté relationnel avec les autres. Presque plus que l'acte créatif en lui-même. C'est le moment de partage après ou avant, quand tu discutes, tu partages des idées, tu échanges par exemple un thé. Ça peut être juste la présence. Donc ce qui me fait le plus vibrer, c'est d'être en présence. De réussir à être en présence et de ne pas penser à demain ou pas penser à hier et juste... Ah, elle est trop belle, cette fleur. Et je peux rester comme ça pendant une demi-heure. Et après, une personne vient te parler. Ah, elle est trop belle, cette personne. Et tu discutes avec elle pendant une heure. Et ainsi de suite.
Alors, Élodie?
En fait, c'est plutôt pour partager un moment vraiment autour d'une passion, les plantes. Moi aussi, j'ai côtoyé les ateliers. Et franchement, c'était super. Entre déjà le thé, le partage, enfin, au début... On racontait un peu comment ça allait et tout. Et puis après, on descendait, faire des créations, mettre ses idées un peu sur feuille, sortir un peu tout ce qui allait pas ou si ça va. Puis vraiment un moment de partage ensemble, c'est pas mal.
Je trouve que le rituel du thé, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Je n'ai pas encore vu une ou un artiste mettre en place comme ça. C'est une passion, le thé, en fait.
C'est la boisson qui m'a fait me retrouver après m'être perdue dans le café.
Ok.
Disons. Et aussi celle qui se lie tellement bien avec cette passion du plante sauvage, parce que chaque fois que tu en cueilles, en faire une tisane, c'est aussi un moyen de conservation au-delà de la fraîcheur directe si tu fais des grandes cueillettes. Donc en fait, ça lie le tout. Mais j'ai vraiment fait une approche holistique qui parfois est fatigante parce que j'admire vraiment les personnes qui arrivent à être très minimalistes et à tenir sur une chose et à s'ancrer encore plus loin dedans. D'ailleurs, les plantes, c'est ce qu'elles font. Mais je ne peux pas. Je suis une akène de pissenlit qui s'envole au vent.
En tout cas, je vous remercie d'être venu présenter votre travail. Et c'était un moment très agréable de vous recevoir.
Et merci à vous.
On vous souhaite plein de succès pour votre futur.
Merci à vous tous.
Voilà, maintenant, nous allons écouter les Cowboys Fringants, l'Amérique pleure.
Le direct.
En même temps que le soleil la fasse encore un peu poquer, mon 4 heures de sommeil, je tire une coupe de pof de clope. Job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleur mieux. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, et demain soir j't'aime mon mani. Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le bar, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro.
Pavillon Nomade, le direct.
Tous les jeudis, Marie-Claude Cudry va à la rencontre d'une personne qui se raconte autour de Malévaux. Aujourd'hui, Marie-Claude a rendez-vous pour ce troisième épisode avec Philippe Rébellé. Philippe Rébellé a passé une grande partie de son enfance à Malévaux, puisque son père était directeur de l'hôpital. Grâce à ce dernier, l'hôpital vit une transformation dans les années 60 et 70. Ses portes s'ouvrent et un vent de liberté s'installe. Écoutons Philippe Rébellé.
Les rencontres de Marie-Claude.
Je me réfère souvent à un des grands psychiatres français qui s'appelait le professeur Henriet, qui évoquait la psychiatrie comme la médecine de la liberté. Ce que je trouvais une très jolie formulation, alors il le justifiait par le fait que tous les troubles psychiques, et ça on peut le faire expérience sur nous-mêmes, dès le moment où on va moins bien, on va perdre un peu de notre degré de liberté. Quels que soient les troubles, hein, que ce soit une dépression, que ce soit un trouble schizophrénique, que ce soit un grave trouble anxieux, on est contraint par des choses de l'intérieur qui nous restreignent dans notre liberté. Et de pouvoir penser la psychiatrie comme ça, moi je trouve ça fondamental, parce que ça veut dire que nous on travaille pour restaurer la liberté des gens. Et c'est aussi tous ces paradoxes aussi par moment par rapport à la contrainte, parce que ça a été quand même quelque chose où Malévaux a été vraiment un des fers de lance, en Europe, de cette ouverture. C'est-à-dire que on utilise parfois la contrainte pour restaurer la liberté. Donc il faut garder cette finalité et puis d'être le plus ouvert possible. On doit tout le temps manier ces paradoxes. Donc je pense qu'effectivement, pour changer ça, il faut se lever de bonne heure, il faut tenir le coup, puis il faut tenir le coup sur des années. Et des années, parce que c'est jamais acquis. Hein. Enfin, c'est quand même ce que l'expérience nous a montré. Il faut des années pour construire des choses, puis en 6 mois, ça peut être balayé.
Oui, et puis il faut aussi des adhérents à cette notion de liberté, à cette notion d'ouverture. C'est bien d'avoir une idée, mais il faut pouvoir la concrétiser, c'est une chose. Et puis après, il faut que les gens à côté adhèrent aussi à cette idée.
Alors c'est pour ça que je vous disais, moi je pense qu'il y a un côté, alors qu'on n'enseigne pas dans nos manuels de psychiatrie, mais peut-être à tort, je pense qu'on doit être aussi des militants en psychiatrie. Et je pense qu'il faut effectivement pouvoir se baser sur un cadre de valeurs et qu'on va pas, on doit pas se laisser embarquer dans une psychiatrie qui risquerait fort de devenir, si on n'est pas attentif, un instrument de contrôle social ou dans des velléités normatives. Non, nous on doit être là pour travailler à ce que les gens soient le plus libres possible et souffrent moins possible. Et pour ça, je pense qu'il y a cette dimension du militantisme. C'est ce qui s'était fait d'ailleurs dans les années, à partir des années 60. Il y avait eu tous ces courants aussi antipsychiatriques qui avaient amené beaucoup de bonnes choses, dans le fond, avec une critique d'une vision asilaire normative. Eh bien, ça avait amené plein de choses, mais qui étaient aussi basées sur une critique sociétale, qui était imprégnée d'idéaux politiques, alors on dirait de gauche maintenant, en disant de gauche, comme ça me semble absurde, c'était juste humaniste, je dis de gauche maintenant, parce que dès le moment où on est un peu humaniste, en particulier en ces jours, avec l'actualité, on a l'impression d'être un horrible gauchiste, rétrograde, alors qu'on voit, c'est probablement des choses qui risquent aussi, là, qui pourraient mettre ces mouvements sociétaux qu'on observe en grand péril, la psychiatrie, dans cette velléité très normative où, au fond, on défend plus que le pognon, plus d'idéaux humains. Hein.
C'est quelque chose que vous ressentez actuellement ?
Oh, terriblement. Je pense qu'il y a aussi des particularités de la psychiatrie ou des hôpitaux psychiatriques. C'est quand même un peu des miroirs grossissants de tous les travers sociétaux. Et si on a eu des, on pourrait dire dans les dernières décennies du siècle dernier, des moments d'ouverture, des moments d'espoir, mais où on défendait des social-démocraties, on défendait des valeurs humanistes, et on a vu cette dérive avec le capitalisme financier, moi je dirais depuis les années 80, on le voyait venir, où dans le fond c'est l'économie, c'est le profit qui a supplanté les valeurs qui ont été les valeurs fondatrices de nos sociétés démocratiques contemporaines. Et je pense que là on les a dévoyées, et puis là on arrive à un point culminant avec des gens qui sont d'une absolue vulgarité, d'une violence terrible, et qui sont nos dirigeants. Et je pense que ce courant sociétal qu'on voit maintenant, il va falloir se batailler pour ça, parce que sinon on va se retrouver avec de nouveau des gens mis à l'écart. On va laisser tomber, c'est ce qu'on voit, on laisse tomber les idées d'aide humanitaire, d'humanisme, au nom du seul profit. Donc oui, je pense qu'on est dans des... Les choses ne sont jamais acquises dans la vie.
Hein. Quelques réflexions très intéressantes de Philippe Rébellé autour de la psychiatrie et de son militantisme humaniste. Cette rencontre est proposée par Marie-Claude Cudry. Quatrième épisode jeudi prochain, vous y trouverez à l'issue du dernier épisode l'intégralité de cette rencontre sur le site de pavillonnomade.ch. J'aimerais parler justement de la liberté, de la militance. Je sais pas, ça c'est quand même une notion qui est quand même très importante. Je sais pas comment vous vivez en fait cette liberté, cette militance. Je sais pas si quelqu'un. En tout cas, votre hospitalisation, comment se passe-t-elle, Olivier?
Alors, écoute, Elvio, je voudrais juste te poser la question. Pour toi, c'est quoi la militante?
Alors la militance, en fait, c'est se battre tous les jours contre la déstigmatisation de la psychiatrie. En fait.
Alors je te comprends tout à fait et oui, je te rejoins, car c'est un de mes combats depuis plusieurs années. Donc oui, c'est important que les gens militent, c'est important que les gens osent aller dans la rue, aborder les autres, leur expliquer ce qu'il en est, démystifier justement ces choses-là. Donc la VEP le fait pas souvent, fréquemment, j'irais même. Il faut d'ailleurs féliciter les participants et aussi les encadrants qui sont exceptionnels et qui donnent ce courage-là.
Tout à fait, tout à fait. Puis on peut rappeler aussi que les mardis, en fait, il y a les si on parle des psy, où on parle de sujets justement et on apprend aux familles et à l'entourage en fait que la psychiatrie c'est pas grave, que c'est quelque chose qui peut être vécu et qui ne doit pas avoir la notion d'enfermement surtout, je trouve. Et c'est ça qu'il y a de beau ici à l'hôpital, c'est cette notion justement d'ouverture et de liberté. Je veux dire, c'est comme il y a pas cette notion, comme il disait, instrument de contrôle en fait.
Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut surtout dire dans ce concept de militantisme, c'est avant tout une thérapie d'apprentissage, donc ou de désensibilisation. Mais avant tout, c'est vraiment ça, c'est une thérapie éducative.
Tout à fait. Et c'est pour ça que justement, il y a de plus en plus d'associations qui proposent justement des sensibilisations. J'invite justement, bientôt, il y aura le 11 avril à Lausanne, la journée rencontre de la psychiatrie pour faire connaître aux gens la psychiatrie, c'est quelque chose qui doit dominer ouvert et avec le respect et avec la tolérance, surtout.
Oui, effectivement, c'est très important. Je crois que de nos jours, la tolérance, elle doit être à tous les niveaux. Pas seulement dans la psychiatrie, mais dans la vie sociale en entièrement. Et même les militaires en parlent. Il y a un grand général de l'armée française qui en a fait un discours, qui a dit qu'à l'heure actuelle, il faudrait qu'on apprenne à se réunir et à reconstruire, à repenser et à reconstruire notre société.
Tout à fait. Pas oublier, justement, là aussi, il soulignait l'humanisme, en fait. Et on oublie qu'on est des êtres humains, que on vit tous sur la même planète, avec le même cœur, le même cerveau, qui ne fonctionne pas toujours la même chose, mais soyons tolérants avec ceux qui fonctionnent différemment.
Même avec ChatGPT, on doit être tolérant.
Je suis assez d'accord. Voilà. Alors maintenant, nous allons écouter une chanson qui nous est proposée par Joël. C'est une chanson de Blur.
Le direct. Streets like le direct.
Et nous accueillons Jojo. Cher Jojo, bienvenue à Pavillon Nomade, qui souhaite le bonjour à Yves Métry, c'est son cousin. Tu peux lui faire un petit
coucou. Pas seulement qu'à Yves, son frère aussi, sa maman et son papa.
Voilà,
tout à fait régulier.
Le message est passé et maintenant nous avons un thème qui nous est proposé par Olivier, l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce que l'alliance thérapeutique, Olivier ?
Bonne question, Elvio. Alors l'alliance thérapeutique, malheureusement on n'entend pas souvent parler et ceci est bien dommage. Car nous entendons souvent parler des différentes psychothérapies qu'il y a, donc on en compte 400, mais l'alliance thérapeutique dans la thérapie et là surtout la psychothérapie est un lien qu'il y a entre le thérapeute et le patient. Donc c'est un peu une alliance qu'on dit, oui, pour aller partir faire la guerre contre la maladie, direz-vous. Mais ce qui est important, c'est que dans cette alliance, c'est un peu comme un couple. C'est à l'amour et à la haine. Mais il ne faut jamais dépasser la rupture. Si on obtient la rupture, l'alliance est terminée, la thérapie s'arrête. Donc
en fait, c'est en fait le dévoilement de sa vie et de soi. Donc ça demande d'aller dans les profondeurs de notre âme, en fait.
Je dis dans les profondeurs de notre âme, mais aussi dans les profondeurs de notre cœur. Parce que c'est par notre cœur qu'on atteint notre âme. Et ce qui est important, c'est que le thérapeute n'a pas tout le boulot à faire. C'est 20% de son job. 40% sont aux patients.
Et donc, s'il n'y a pas de dévoilement, en fait, il n'y a aucune progression.
Ben justement, c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le langage, la communication. La communication entre le patient et son thérapeute. Donc, si la personne a des problèmes de communication, ça va être difficile pour le thérapeute de pouvoir communiquer avec lui. Par contre, si le patient a plus de facilité au niveau des communications et dire ce qui ne va pas, à quel moment ça ne va pas et pourquoi ça ne va pas, ça sera beaucoup plus facile.
Eliane ?
Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce que vous dites, Olivier. Il faut quand même être relativement bien comme patient, enfin, je veux dire, suffisamment en forme pour pouvoir participer à cette alliance thérapeutique, non ?
Alors, Eliane, vous avez parfaitement raison. Mais ça fait aussi partie du thérapeute et ça lui donnera un moindre avantage. Mais ça sera à lui justement de permettre au patient de pouvoir s'exprimer. Parce que si le patient n'arrive pas à s'exprimer, c'est qu'il a des traumatismes de son passé.
Absolument, absolument. Oui, je comprends bien. Merci, en tout cas.
Je vous en prie, Eliane.
Et vous avez testé plusieurs styles de thérapie ?
J'ai testé des thérapies cognitives comportementales, j'ai testé thérapie analytique. La EMDR, malheureusement, je n'ai pas pu tester parce qu'on en a très peu et c'est très demandé. C'est un peu toutes les thérapies que j'ai essayées pour le moment, mais la plus prometteuse est la TCC pour le moment.
MDR, ça veut dire quoi ?
EMDR. Alors, EMDR, c'est une thérapie au niveau des yeux.
Au niveau des yeux ?
Oui. Été créée pendant la guerre du Vietnam pour gérer le traumatisme des soldats américains qui rentraient aux États-Unis et qui avaient énormément de problématiques.
En fait, c'est une thérapie en fait qui joue sur l'ambivalence en fait les deux hémisphères, hein, c'est ça. Hein. On peut le faire aussi tactilement, je crois. Hein.
Oui, Elvio, effectivement, on peut le faire tactilement. On peut aussi le faire justement dans le mouvement des yeux vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Paraît que ces résultats sont assez bluffants, surtout pour les gros traumatismes.
Ouais, j'ai eu une personne en fait qui avait eu un grave accident de moto, qui a utilisé cette thérapie pour se rétablir et oser de nouveau monter sur une moto en fait. Donc ça va. Et là, il y avait une autre thérapie que vous aviez dite à la fin.
Donc la TCC.
La TCC, voilà. Qu'est-ce que c'est ?
La thérapie cognitive comportementale.
Ah oui, je sais ce que c'est.
Voilà. Donc, ce qu'il s'agit, c'est justement de redescendre dans le passé. Mais pour redescendre dans le passé, on va utiliser certaines fiches. Donc la personne va devoir écrire sur la fiche les problématiques qu'elle a eues sur, par exemple, une prise de tête avec quelqu'un, ou ça n'a pas joué dans tel job, ou elle a eu un malaise au milieu de la foule. Donc elle va devoir décrire. Donc la fiche la plus simple, c'est la fiche de... c'est une fiche d'évaluation de la situation. Donc on décrit la situation, sans aucun jugement, juste ce qui s'est passé, du factuel, uniquement du factuel. De cela, on en retire les émotions. Une fois qu'on a retiré les émotions vont créer des réactions physiques internes et externes. Donc on va décrire ces réactions physiques. De là, il y a des pensées qui vont se générer. Donc on va décrire les pensées qui se sont générées sur le moment, pas avant ni après. C'est sur le moment. Et après, bien entendu, il y a toujours des réactions qui sont des réactions de défense. Ces réactions sont le corps. Donc le corps réagit, donc qu'est-ce qu'on a fait ? Et surtout, qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? Parce qu'il y a des fois, on ne bouge pas, pas parce qu'on n'a pas envie de bouger, mais parce qu'on est tétanisé. Donc, il faut le décrire aussi. Voilà, je n'ai pas pu bouger, je voulais bouger, mais je ne pouvais pas bouger. Donc, mon corps n'a pas pu bouger. Voilà. Et la pensée, c'est « je veux bouger ».
C'est des stimuli, en fait.
C'est des stimuli.
Vous m'avez l'air d'être une personne avec un sacré vécu. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en parler ?
Oui, j'ai effectivement un sacré vécu. Et je pense que bon, nos auditeurs ne le voient pas ici, mais j'ai les mains qui tremblent comme c'est pas permis, comme un boulot en automne, en tempête d'automne.
Vous gérez très bien.
Merci, c'est gentil, Elvio. Donc, jusqu'à maintenant, la TCC m'a énormément aidé à poser beaucoup de choses. Donc c'est pas fini. Mon parcours, il a commencé au début janvier. Donc j'ai écrit plusieurs de ces feuilles, c'est pour ça que j'arrive aujourd'hui à vous les décrire facilement. Je conseille aux patients qui s'investissent là-dedans, vraiment s'investir à fond, quoi, de se donner. Parce que ça vaut la peine, et comme discuter avec un infirmier de Malévo, on ne va pas chez le médecin sans rien. On va chez le médecin avec un cahier. Et moi, je dis à tout le monde, j'y prenez votre cahier, marquez-y, cahier de thérapie. Et dans ce cahier de thérapie, vous allez marquer les choses importantes. Alors moi, quand je vais, par exemple, chez mon thérapeute, la première chose que je vais marquer, c'est les choses que je n'ai pas comprises et qui m'ont blessé ou qui m'ont marqué, parce que je ne veux pas avoir de problème avec mon thérapeute. C'est important de garder un lien qui est sain. Et après, je vais marquer les choses importantes et à la fin, je marquerai les choses moins importantes. Mais ce cahier, il va servir comme un fil rouge. Ça sera le cahier conducteur.
Et quel est votre parcours professionnel, Olivier ?
Ouh, il est long.
Vous m'intriguez.
J'ai fait une Mathieu fédéral. Après, j'ai fait l'école technique de Sainte-Croix. J'ai fait le Poly à Lausanne. Après, en 2005, j'ai fait un bachelor en biochimie.
Ah ouais, d'accord. Ok.
J'ai un diplôme de professeur de l'école de ski. Et j'ai un tutorat en plongée profonde à l'école française de plongée franc.
Waouh. Et donc ça, la plongée profonde, c'est à partir de combien de mètres ?
C'est jusqu'à 60 mètres à l'air.
Ah ouais. Ah ouais, quand même. Et vous faisiez de l'apnée ou c'est plus de la plongée avec...
Plus la plongée technique. Mais ce que je faisais, c'est qu'avec le tutorat, je formais des moniteurs.
D'accord. Eh ben, dis donc, vous avez voyagé dans de beaux pays pleins d'azur bien bleu et des profondeurs magnifiques, j'imagine.
Oui, les profondeurs étaient belles, mais je dirais que les gens étaient extraordinaires. Wow. J'en tiens des souvenirs de ces personnes, que ça soit en Australie, que ça soit aux Antilles. Je crois qu'une des régions que j'ai trouvées merveilleuses, et je salue les Basques au passage, c'est Hendaye, une région superbe. Si les gens ont la possibilité d'y aller, je leur conseille d'y aller.
Je prends note. En tout cas, je vous remercie pour votre partage. Allez-y.
J'ai encore une petite note sur Hendaye. Hendaye, ils ont un hôpital spécial. Hendaye, on a un hôpital spécial, mieux que Malévo, car il est au bord de la mer et les patients vont
ça,
à l'eau, font du bateau et on les amène faire de la plongée.
On peut y aller quand ?
Excellent. Hendaye, vous dites ?
Hendaye, oui.
Ouais, alors,
l'hôpital de marin.
Ok, donc Pays Basque.
Pays Basque.
Pays Basque. Okay. Ah, belle région en plus. Merci beaucoup Olivier pour ce partage. Maintenant nous allons écouter Sacré Géranium, c'est une dédicace qu'on fait à notre chef Gabriel, Dick Hanegarn.
Le direct.
Sacré Géranium, tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère, puis de toute façon, vous sentez tout bon, vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Les poules et le coq se comptent fleurettes, c'est vrai qu'il est seul. Ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Hey, ah, ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
La minute d'Elvio.
Aujourd'hui, je vous emmène au Japon. Sakamoto Day, c'est l'histoire d'un ancien assassin légendaire, Taro Sakamoto, qui a troqué sa vie de tueur impitoyable pour une existence paisible de père de famille, de propriétaire de supérettes également. Et oui, le mec qui pouvait faire trembler le monde du crime avec un simple regard passe maintenant ses journées à vendre des nouilles instantanées et à gérer les promos de lait. Mais Sakamoto n'est pas juste un ex-assassin. Non, c'est le tueur à gage ultime, le monstre, la légende, le John Wick, version papa bedonnant. Sauf que depuis qu'il est marié, il a pris quelques kilos, porte un tablier et a un sens des responsabilités digne d'un chef scout. Tout allait bien jusqu'à ce que ses anciens collègues se disent « Tiens, si on butait Sakamoto, histoire de prouver qu'on est les nouveaux patrons du game ?» Grosse erreur les gars, parce que même avec son bide de daron et son look de gentil commerçant, Sakamoto a toujours les réflexes de ninja. Il esquive les balles en tournant autour des rayons de céréales, neutralise des tueurs avec une cuillère à soupe et balance des yakuza à travers la vitrine de son propre magasin, qu'il doit ensuite réparer parce que ça coûte cher. Et pour l'aider, il y a Shin, ex-assassin avec des pouvoirs télépathiques, qui peut lire dans les pensées, mais qui passe plus de temps à regretter d'avoir rejoint cette galère qu'à être utile. Évidemment, leur quotidien est rythmé par des combats de plus en plus absurdes. Un sniper d'enfer qui se fait battre par un coup de poêle, un mafieux ultra-musclé humilié par un jet de bonbons, un vieux maître d'arts martiaux qui croit que Sakamoto c'est fini avant de prendre une baffe interdimensionnelle. Ajoutez à ça Une galerie de personnages aussi tarés que charismatiques, une organisation criminelle qui veut absolument en finir avec ce gentil épicier et un humour complètement barré. Tu obtiens un manga, mélange baston, absurdité et tranche de vie. Bref, Sakamoto D, c'est comme si Jason Bourde ouvrait une boulangerie et continuait d'exploser des agents secrets entre deux fournées de croissants. Et franchement, c'est hilarant. Je vous conseille également l'excellent animé Qui vaut le détour et que vous découvrirez sur le grand N rouge.
Per non restare a fare niente aspettando la fine. Andare perché ferma non sai stare. Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo per le cose. Comunque andare, anche solo per capire o per non capirci niente, però all'amore poter dire ho vissuto nel tuo nome. Ballare e sudare sotto il sole. Svanire, non saperti risparmiare, ma giocartela fino alla fine.
Direct. De retour sur Pavillon Nomade, nous avons notre chère Eliane qui a préparé un sujet sur les grands prix. Eliane, à toi.
Merci. Alors, oui, j'avais envie de partager avec vous cette passion que j'ai pour les grands prix moto et la Formule 1, que je suis depuis des années. Le week-end dernier, il y avait un grand prix moto. Faut oublier que c'est moto GP. Ça représente 350 chevaux pour 157 kilos. Le dernier donc Grand Prix la semaine dernière, c'était en Argentine. Le gagnant du championnat du monde 2024, Jorge Martin, l'Espagnol, n'a pas pu prendre le départ en raison de ses fractures suite à une chute lors des essais en février. Donc, en ce début de saison, c'est les frères Marquez qui sont devant. Alex et, je ne sais plus, Marc. Donc, le papa, il suit depuis l'instant ses enfants, en fait, à courir. Et la maman, elle n'ose pas regarder. Parce que quand même, ces deux petits qui font La moto a une vitesse incroyable, ça lui fait peur. Donc Alex, il a 28 ans, Marc, 32 ans. Nous attendions cette année Pecco Bagnaia, mais ça ne va pas avec cette moto. Il va probablement reprendre pour le prochain Grand Prix la moto qu'il avait l'année dernière. Voilà, pour ce qui est de la moto, pour la Formule 1, donc c'était à Melbourne, en Australie, et là-bas, c'est le printemps, donc. Non, c'est l'automne, et il fait tous les temps en un jour. Pour les qualifs, il a fait beau et chaud. Le dimanche, c'était palpitant. Il y a eu de la pluie, du vent, du soleil. Beaucoup de pilotes sont sortis sur glissade. Et c'est finalement Lando Norris qui a gagné. Et malheureusement, Oscar Piastri, le local australien, est parti à la faute. Alors moi, je suis très régulièrement, et surtout les bruits de couloir, quoi. Parce que quand on dit que les femmes, c'est des pipelettes, alors je vous promets que ceux qui reportent la moto et la Formule 1, c'est encore pire que les femmes. Bah, voilà.
Je dois dire qu'il faut meubler. Hein. Parce que...
Non, mais il se passe quelque chose. Ah, oui. Et surtout maintenant qu'en Formule 1, depuis, quand il y aura le Grand Prix de Monaco, où on ne peut jamais dépasser, ils seront obligés de s'arrêter deux fois. C'est une nouvelle règle, parce que voilà, ceux qui partent à Monaco, ils gagnaient, quoi. Ou s'ils faisaient de bêtises, ceux qui étaient derrière. Alors ça, c'est des nouvelles règles qu'ils vont mettre en place pour le Grand Prix de Monaco. Et c'est sûr, bien, c'est une question de stratégie. Hein, en moto, non, parce qu'ils ne vont pas changer de moto. Mais pour la Formule 1, stratégie, deux arrêts, trois arrêts. Quand c'est qu'il faut arrêter le pilote. Alors moi, j'aime beaucoup regarder ça. Et comme je disais tout à l'heure, Fabrice Jaton n'est pas en reste pour les petits ragots, celui-là qui s'est marié, non. Ceux qui se sont quittés, mariés, qui sait qu'atteint un enfant. Non, avec lui, on sait tout. Donc, voilà.
Et moi, j'ai une petite question, Eliane. Oui. Vous avez fait de la moto?
Oui, beaucoup, ouais.
Beaucoup.
Ouais.
Ah, vous en faites encore?
Non, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu, l'autorisation de passer mon permis moto, vu la peine que j'ai eu d'avoir mon permis à quatre roues. les amis m'ont dit non, écoute, Eliane, non. C'est mieux pas. Donc, j'ai toujours été derrière et on partait avec des amis. J'étais la seule femme qui était acceptée parce que j'étais pas chiante. Alors, j'ai fait beaucoup.
Mais des motos de route plutôt ou des motos plutôt sportives?
Non, alors des motos de route, hein, des Honda CBR 1100. On avait aussi une Ducati. Mais Ducati, pour la personne qui est derrière, c'est pas top, hein, parce qu'on est haut. Et il faut vraiment avoir quelqu'un de très grand devant. Autrement, on se tape le casque.
Il y a Élodie qui aimerait réagir.
Oui, Élodie.
C'est quand même très rare de voir des femmes passionnées par la Formule 1 ou la moto.
Oui, alors c'est assez rare, je suis tout à fait d'accord. Mais cette année, il y a Laura, je ne sais plus quoi, qui elle vient comme ingénieure, comme dans une équipe de Formule 1. Alors tout le monde, un petit peu... Là, ouais.
Elle est chouchoutée ou plutôt...
Non, je dirais non.
Ah.
Il y en a beaucoup qui l'aiment bien.
Il y a beaucoup de patriarcat encore.
Oh, affreux. Affreux. Ouais. Ça donne la moto ou la Formule 1.
Tout ce qui est milieu automobile.
En gros, tout ce qui est un moteur. Quoi.
Ils ont voilà.
Pourtant, en rallye, il y a quand même beaucoup plus de femmes.
Rallye, oui.
C'est beaucoup plus ouvert.
Mais parce qu'il y a eu quand même des gens qui ont gagné. Sébastien Loeb, il a gagné pendant des années. Et lui, il est très pour les femmes.
Oui.
Donc, c'est vrai que en Formule 1, les femmes, les campagnes, c'est tout des mannequins. Je veux dire, c'est normal. Hein, ils vont pas prendre des tons. Hein,
ils ont de l'argent.
C'est vous qui le dites.
Hein. Voilà.
Sinon, nous avons Joseph. Bonjour, Joseph.
Mais rebonjour, Pétol.
Vous êtes un expert, vous aussi.
Il semblerait que j'ai un parcours un peu bizarre. Ouais, tout à fait. Je suis un ancien cadre Michelin. Donc tout ce qui est moto, voiture, je connais un tout petit peu. J'ai un souvenir assez marqué, mes 40 ans. Nous sommes allés voir le Grand Prix de São Paulo. avec les essais, avec le dimanche forcément la course. Et c'était merveilleux. J'ai vu passer la Porsche la plus puissante au monde sur le circuit. Et puis quand une Formule 1 est arrivée, on s'est dit, mais tiens, la Porsche est au ralenti. Peut-être okay. L'histoire la plus moche, c'est quand, nous sommes sortis de ce Grand Prix. J'ai pris un taxi, forcément, avec mon ami. Et on a vu un enfant de l'âge de mon fils manger dans, dans des poubelles, sur un amas de poubelles. Donc j'ai deux images, forcément cette beauté et forcément le malheur, le grand malheur.
Et puis, moi, ce qui m'a choqué, qui m'a fait beaucoup de peine, c'est la mort d'Ayrton Senna. Donc c'était le 1er mai 1994, je crois.
Pas mal.
Pas mal, hein.
Pas mal.
Pour une femme. Hein.
Une gommette d'or.
Et je me rappelle que à l'époque, les cockpits étaient, c'était pas aussi protégé. Après, ça s'est quand même bien amélioré.
Alors, la réponse est simple. Aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus lourdes, justement parce qu'il y a des crash tests qui se font de manière régulière. À certaines vitesses, ça passe, à d'autres, pas du tout. Moi, j'aimerais rendre hommage à deux, trois personnes. Un, Michel Mouton, Audi Quattro. Elle a aujourd'hui toujours une grande présence dans ce milieu-là, mais c'était une femme d'exception. Et l'Audi Quattro avec ses 200 chevaux, waouh, c'était super cool, Raoul, à l'esplaise. Et l'autre personnage à qui j'aimerais rendre hommage, il s'appelle Stéphane Peter-Hansel. 14 victoires quand même au Paris-Dakar. Il est venu au magasin quand j'avais le magasin Ouvrier, puis Stéphane m'a dit « Dis donc, Pétol, je vais m'acheter un vélo. » J'ai dit « C'est possible ici. » Et la bêtise que j'ai faite, j'ai dit, mais bah, le Dakar, c'est pas tellement pour les femmes. Et là, Stéphane me regarde, il dit, tu sais, ma conjointe est allemande, elle est en principe toujours dans les 3-4 premières en moto. Donc, comme quoi, on tutoie l'impossible et le possible.
Oui, et puis c'était quelqu'un vraiment de très sympathique. Moi, je l'ai rencontré en championnat en France. Peter Hansel, j'arrive jamais à dire ça.
Peter Hansel.
Voilà. Et vraiment. Oui, il a tout de suite, c'est tout de suite bien passé. Il était très, très sympathique et très ouvert.
Je dirais la chose la plus horrible que je vais devoir dire aujourd'hui parce que j'en frissonne. Stéphane est devenu un être d'exception quand il a perdu sa femme, a perdu son enfant,
oui.
Et il a aussi perdu sa femme qui est devenue folle au moment de la perte. Et voilà, il arrive à repousser des limites qui sont incroyables. Et c'est un homme, mais j'ai rarement vu aussi humble que lui. Ah si, il y en a un, il s'appelle Loeb.
Sébastien.
Oui. Eh oui.
Bon, en tout cas, je vous remercie pour vos témoignages. L'émission touche à sa fin. Joseph, ici présent, m'a fait découvrir Dimash. J'arrive pas à dire le nom de famille. C'est un chanteur kazakh, c'est ça ?
Effectivement, il vient du Kazakhstan. Il a simplement 5 octaves qu'il utilise avec merveille et avec un brio.
Ah ouais, non, c'est quelque chose. Alors là, on va écouter Dimash avec SOS d'un terrien en détresse. Et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et c'est avec plaisir qu'on vous retrouve jeudi prochain. Au revoir tout le monde.
Je souhaite juste adresser un message de paix et d'amour à toutes ces personnes qui sont à Malévo, en état pour certains de grandes difficultés, d'autres ils s'en sortent. Eh bien, c'est un message de paix que d'être ici et merci pour votre écoute.
Merci beaucoup Joseph.
Le direct.
Je ris, pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai mûri pierre sur toi. Take
cherche toujours au fond d'une vie avec les conditionnés. Je crois dans un pire, mais à ma force, je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire. Voler. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure?